Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous continuons notre étude pour ces quelques semaines au sujet de la persévérance des saints. C'est, je pense, un bon titre biblique pour décrire une doctrine que l'on appelle souvent la doctrine de la sécurité éternelle ou de la sécurité du croyant. La ligne de fond dans cette doctrine est que, quand le Seigneur sauve quelqu'un, ce salut est pour toujours et ne sera jamais perdu. La Bible est claire sur cette vérité fondamentale, et la vérité fondamentale, c'est que le salut, par sa nature même, est irrévocable. Cependant, malgré la clarté des Écritures, il y en a quand même qui sont tombés sous l'influence d'un enseignement qui nie cela. Il y en a beaucoup dans l'Église chrétienne qui vivent dans une sorte de peur, avec la possibilité qu'ils puissent perdre leur salut. Ils sont prévenus qu'ils peuvent, par le péché ou leur échec à croire, renoncer au salut que Dieu leur a donné. C'est-à-dire qu'un croyant peut redevenir un non-croyant. Une personne née de nouveau en Christ peut redevenir comme avant. Ceux qui sont maintenant les enfants de Dieu peuvent redevenir les enfants du diable. Ceux qui sont citoyens du ciel peuvent devenir des occupants de l'enfer. En fait, tout ce qui nous est donné en Christ peut être perdu et confisqué, et inévitablement, ceux qui enseignent cette doctrine s'efforcent de la soutenir au moyen des Écritures, et ils dressent une liste de passages doctrinaux à utiliser comme support de cette idée que vous pouvez perdre votre salut. J'ai traité cela depuis des années, plusieurs fois, et dans plusieurs domaines, et le plus flagrant d'entre eux est d'essayer d'aider les Russes, les croyants russes, à comprendre cette doctrine, car durant tant d'années, on leur a enseigné qu'il est possible de perdre son salut. Il y a quelque temps, pour illustrer ce point, j'étais à Minsk, en Biélorussie. La Biélorussie est une république très intéressante, autrefois une partie de l'Union soviétique. C'est la plus touchée par Tchernobyl, parce que la radioactivité qui est sortie de Tchernobyl est dans le sol, et donc dans l'eau, et dans l'approvisionnement alimentaire, et toute la nation est en train de mourir. C'est un endroit vraiment incroyable. J'y suis allé à plusieurs reprises. Une fois, nous sommes allés dans un ancien camp militaire communiste pour une conférence de pasteurs. Là, où les soldats communistes étaient formés, les pasteurs étaient formés, ce qui est un dépaysement assez intéressant. J'étais là avec eux pendant une semaine, dormant dans la caserne avec eux à cet endroit, et leur enseignant la parole de Dieu. C'était de très longues sessions journalières intenses, jour après jour. Et en cours de route, j'ai dit quelque chose sur le fait que le salut était à jamais, était éternel, et ne pouvait pas être perdu. Et c'était, je pense, dans le cadre de notre cheminement à travers la lettre de Romains, en particulier le chapitre 8. Et je n'ai pas fait de cela un point essentiel. J'ai juste fait quelques commentaires à ce sujet, et je suis passé à autre chose. Et c'était la fin de la journée, et après avoir pris un peu l'air, je me suis rendu au baraquement où j'ai résidé. J'ai dormi, et je me suis levé le matin. Je suis retourné dans le hall, où il y avait le petit déjeuner, et ensuite, nous avons eu notre réunion. Lorsque je suis revenu, j'ai été accueilli par la personne qui dirigeait la réunion, qui m'a dit que ce que j'avais dit à la fin de la soirée sur le salut éternel et irrévocable avait fait grand bruit, si bien que 27 des leaders étaient restés debout toute la nuit. Ils sont restés debout toute la nuit et ont compilé une liste de versets qui leur a rendu cet enseignement difficile à accepter. Et ils m'ont dit, « Voici les versets. Alors aujourd'hui, nous voulons que vous répondiez à tous ces versets. » Assez juste, non? Je veux dire, si c'est vrai, cela devrait résister à l'épreuve des Écritures. Et ainsi, du mieux que j'ai pu, j'ai essayé de me frayer un chemin à travers ces versets et de leur montrer comment comprendre ces versets. Et pour être honnête envers vous, en particulier envers ceux d'entre vous à qui on a peut-être appris que vous pourriez perdre votre salut, vous connaissez aussi certains de ces versets. Et il est important de s'y référer. Et donc je tiens à le faire. Essentiellement, ce sont des versets qui sont très souvent, les plus importants, qui sont souvent utilisés pour soutenir l'idée que vous pourriez perdre votre salut. Jean 8, verset 31. Et l'un de ceux-là, Jean 8, 31 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous me direz, « Eh bien, vous voyez, si vous ne restez pas dans la parole, vous cesserez d'être un disciple. » Et puis il y a Jean 15, verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Vous allez finir en enfer si vous ne restez pas fidèle. Vous allez finir en enfer si vous ne demeurez pas en lui. » Et puis il y a Matthieu 24, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, cela dépend vraiment de votre endurance. La même chose est mentionnée aussi dans Matthieu 10, au verset 22, et puis dans Actes 13, au verset 43, où Paul et Barnabas parlent aux Juifs et aux croyants craignant Dieu, les exhortant à continuer dans la grâce de Dieu. Ainsi, il semble que vous deviez avoir la volonté et l'engagement à continuer dans la grâce de Dieu pour être finalement sauvé. D'autres versets, dans Romains, chapitre 2, Dieu, verset 6, rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. En d'autres termes, si vous ne persévérez pas à faire le bien, si vous ne persévérez pas dans la recherche de la gloire, de l'honneur et de l'immortalité, vous ne recevrez pas la vie éternelle. Et plus loin, dans le 11e chapitre de Romains, il y a bien d'autres versets. Ceux-ci sont juste marquants. Romains 11, verset 22. Voilà la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ainsi, il y a ces exhortations à demeurer, à rester, à persévérer, à continuer. Le chapitre 1 de Colossiens nous donne un exemple assez familier. Il est dit au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. En parlant de salut, vous étiez mauvais, et à présent, il vous a rendu saint. » Verset 23. « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Donc, encore une fois, nous avons ce mot de « continuer ». Les mots sont à peu près les mêmes dans tous les versets. Demeurez, restez, continuez. Ils se rapprochent tous d'une origine grecque commune. Le chapitre 3 d'Hébreux ajoute une autre contribution à cela. Et ce sont des versets à propos desquels j'ai aussi été obligé de discuter avec nos chers frères en Russie pour les aider à comprendre. Dans Hébreux 3, verset 6, Christ l'est, fidèle, comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et au verset 14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il s'agit de tenir le coup, de durer. Il s'agit de continuer. Il s'agit de rester. Il s'agit de demeurer. Tous ces passages sont des passages qui doivent être compris. Est-ce que ce seraient des exhortations à s'accrocher à votre salut? Est-ce que ce seraient des avertissements concernant le fait que si vous lâchez prise, ou si vous dérivez, ou si vous déviez, ou si vous échouez à persévérer, vous allez perdre votre salut? Eh bien, s'ils le sont, la Bible se contredit elle-même. De toute évidence, l'Écriture enseigne que le salut est éternel. Il enseigne aussi que le salut vient de Dieu, et que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que ce soit au préalable ou lors d'un processus continu. Vous ne pouvez pas être sauvé au préalable par vous-même, par la force de votre propre foi, et vous ne pouvez pas vous accrocher par la force de votre propre foi. Nous l'avons déjà dit. L'idée ici, c'est que ce ne sont pas des avertissements destinés aux croyants, afin qu'ils s'accrochent de toute leur force, de peur qu'ils ne perdent leur salut. Ce sont plutôt des affirmations qui font de ceux qui endurent, ceux qui continuent, ceux qui persévèrent, ceux qui tiennent fermement, une preuve qu'ils sont ceux qui sont sauvés, de sorte que vous puissiez prendre tous ces versets et y répondre de la même manière. Jésus dit, « Si vous êtes de ceux qui demeurent dans ma parole, alors vous êtes un vrai disciple. Si vous êtes de ceux qui n'y demeurent pas, vous n'êtes pas un vrai disciple. Si vous êtes de ceux qui résistent, vous recevrez votre salut à la fin. Si vous êtes de ceux qui persévèrent dans la grâce de Dieu et persévèrent dans l'espérance de l'Évangile, persévèrent et persévèrent encore, alors vous donnez la preuve d'avoir reçu la puissante œuvre salvatrice de Dieu, parce que vous possédez la seule foi qui sauve, et c'est une foi persévérante. Ces passages définissent alors la nature de la foi qui sauve. Ce ne sont pas des avertissements dans le sens où les croyants auraient besoin d'être avertis de s'accrocher. Ce sont des avertissements adressés à des croyants superficiels, des simulacres de croyants, des croyants de nom, qui n'ont rien de vrai. Ils me répondront, « Si votre foi est réelle, elle durera jusqu'à la fin, gardée par Dieu, protégée par Dieu. Mais comment nous protège-t-il ? Par la foi. Il nous donne une foi qui sauve, et une foi qui dure jusqu'au bout. Nous avons été sauvés par la foi, et nous endurons par la foi. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est un don de Dieu, selon Éphésiens 2, versets 8 à 9, qui dit, « Tout comme vous n'avez pas été sauvés autrement que par la foi, un don de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvés jusqu'à votre glorification par une foi humaine, mais plutôt par cette foi surnaturelle que Dieu vous donne. Il vous a été commandé de croire, et vous l'avez fait fermement. Il vous a été demandé d'obéir pour recevoir le salut de l'Évangile, et vous l'avez fait. Il vous est maintenant demandé de croire et d'obéir pour votre sanctification, et vous le faites. Et il vous est demandé de persévérer dans l'obéissance et la foi, jusqu'à la fin, et vous le ferez. Ce que les auteurs de l'Évangile décrivent, c'est la façon d'identifier le vrai croyant. Vous êtes un vrai croyant si vous persévérez. Et le texte sur lequel repose toute cette interprétation est 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Quand quelqu'un abandonne la foi, c'est la preuve réelle qu'il n'avait pas la foi qui sauve. Ce n'était pas la foi surnaturelle que Dieu donnait, parce qu'elle n'est pas restée, parce qu'elle n'a pas demeuré, parce qu'elle n'a pas continué, parce qu'elle n'a pas tenu, parce qu'elle n'a pas duré. Dans 2 Timothée 2, verset 12, nous lisons ceci. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il n'y a que deux possibilités pour les gens qui professent le Christ, la vraie et la fausse. Si nous résistons, nous sommes les vrais et nous régnerons. Si nous le renions, il nous reniera. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Si jamais quelqu'un renie le Christ, rejette Christ, tout ce qu'ils manifestent, c'est qu'ils n'ont jamais eu la vraie foi, parce que la vraie foi est une foi durable. C'est le don surnaturel de la foi qui dure jusqu'à la fin. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il s'est identifié à vous, il vous a donné sa vie en partage. Ceux qui persévèrent sont les vrais croyants. Ceux qui ne persévèrent pas sont de faux croyants, et les vrais croyants auront des moments temporaires de lutte avec leur foi. Et c'est vrai, il y a des moments où notre foi s'affaiblit, et oublions-nous les paroles de Jésus, qui a dit à ses propres disciples dévoués, « Ô homme de quoi ? De peu de foi. Mais jamais de déni catégorique, de déni complet définitif. Il est donc approprié que nous nous tournions vers Pierre, parce que Pierre possédait la vraie foi salvatrice. Mais il a manifesté une faiblesse temporaire, et même un reniement temporaire, lorsqu'il était confronté au procès de Jésus. Revenons donc à notre texte de 1 Pierre, chapitre 1. Pierre est celui vers qui nous nous tournons pour son fort témoignage de persévérance, malgré sa foi faible et protégée par Dieu, grâce à une foi qui ne peut pas échouer. La foi de Pierre a eu ses moments de faiblesse. Il y a eu ces moments de reniement temporaire. Je voudrais vous apporter quelques précisions à ce sujet. Pierre a eu cette terrible période. Vous vous rappelez, avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit vienne habiter en lui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, a dit Jésus. Après la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, vous ne trouvez plus aucune évocation de déni de la part de Pierre. Il se lève devant toute la population de Jérusalem et prêche le Christ. Pierre a compris ce qu'était la foi persévérante. Il a compris ses défaillances, mais il a également compris ce que c'était la foi persévérante. Sa défaillance n'a jamais été définitive, et elle n'a jamais été complète. Il a sûrement compris alors l'amour fidèle du Seigneur. Il a compris la réhabilitation. Vous vous souvenez comment le Seigneur l'a ramené à lui, restauré. Il a compris la grâce. Il a compris la force de la foi que le Seigneur lui avait donnée. Si vous êtes un vrai croyant, votre foi n'échouera pas complètement, ni définitivement. Vous aurez jusqu'à la fin confiance en Christ, parce que vous êtes gardés. Regardons le verset 5. 1 Pierre 1, verset 5. Gardé par la foi. C'est une affirmation si importante. Protégé par la puissance de Dieu, au travers de la foi. Comment Dieu nous garde-t-il? Par notre foi persévérante, durable et continue. Maintenant, souvenez-vous, Pierre écrit aux chrétiens qui sont persécutés, même martyrisés, et face à cela, ils se demandent si leur foi résisterait, et ils étaient très anxieux à ce sujet. Leur foi échouerait-elle s'ils étaient faits prisonniers? Leur foi échouerait-elle s'ils étaient battus? Est-ce que leur foi échouerait s'ils faisaient face à la mort? Ils n'avaient pas confiance en leur propre force, parce qu'ils connaissaient leur propre lutte en tant que croyants. Ils savaient qu'ils vivaient tous comme nous le faisons dans Romains 7, ne faisant pas ce qu'ils veulent faire, et faisant ce qu'ils ne veulent pas, et luttant contre leur propre chair. Et ils se demandent s'ils pourraient un jour survivre dans un procès aux persécutions extrêmes, ne faisant pas confiance à leur propre foi. Ils craignaient que leur foi n'échoue. Pierre écrit cette lettre et note qu'ils vont avoir des moments très difficiles. Puis au chapitre 2, verset 20, il parle d'être durement traité et de le supporter avec patience. Au chapitre 3, il parle du mal qui pourrait leur arriver. Au chapitre 4, il parle de leur souffrance en tant que chrétiens, verset 16, et ne pas avoir honte, mais de glorifier Dieu. En fait, il est assez clair qu'ils vont avoir des moments très difficiles. Au chapitre 5 et au verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, etc., etc. » La lettre reconnaît donc qu'ils sont soumis à de très graves intimidations et menaces, et ils s'inquiètent de savoir si leur foi survivra. Et Pierre leur dit au verset 5 « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, et ce que je dis, c'est que ce n'est pas votre foi, c'est la foi qui vient de Dieu, qui vous est donnée en cadeau. C'est une foi surnaturelle. » Observons maintenant les éléments ou les composantes de cette protection. Et laissez-moi revenir à ce que nous avons dit la dernière fois. Tout d'abord, nous sommes protégés par une espérance vivante. Protégés par une espérance vivante. 1 Pierre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. J'aime cette parole, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous avez une espérance vivante. Qu'est-ce que c'est? C'est une espérance qui ne peut pas mourir, c'est le but. C'est une espérance qui ne peut pas mourir. Elle ne pourra jamais mourir. Hébreux 6, verset 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Et quelle est notre espérance? Notre espérance est le paradis. Notre espérance est de voir le Christ, de recevoir notre récompense éternelle, d'entrer dans notre foyer céleste, de recevoir notre héritage. C'est notre futur dans la prochaine vie. C'est un héritage que Pierre nous dit impérissable. De combien de façons doit-il le dire? Il ne peut pas périr, il est sans tache. Il ne peut pas être corrompu, il est sans faille. Il ne peut pas être diminué, il vous est réservé. Il vous est réservé sans équivoque au paradis. Et en passant, le paradis est l'endroit le plus sûr pour y placer n'importe quel héritage. C'est pourquoi, dans Hébreux 6, il est dit que notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, est lui-même entré au ciel. Il est entré au paradis. Écoutez ça. Cette espérance, comme je viens de vous le lire, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur. Jésus est allé au ciel et a ancré là notre espérance éternelle. Cet espoir est ancré, sécurisé dans l'endroit le plus sûr, à savoir le paradis. Cela me rappelle Matthieu 6, versets 19 à 21. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est l'endroit le plus sûr. Dans Apocalypse 21, verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Aucun voleur ne peut y arriver pour voler votre héritage. Chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est l'endroit le plus sûr où vous pouvez mettre tout héritage, parce que seuls les rachetés et les justes s'y trouvent, et ce qui est au ciel est scellé. Revenons pendant une minute à Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, et cette grande affirmation faite dans les versets 3 à 14. Les versets 3 à 14, selon ce que disent la plupart des spécialistes de la Bible, n'est qu'une seule et même phrase, ce qui signifie que Paul n'y est pas allé de main morte ici. Il n'a jamais mis de ponctuation d'aucune sorte ici. Le texte défile simplement. Mais il commence par « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Chaque bénédiction spirituelle. Chaque bénédiction spirituelle. Qu'est-ce que cela implique? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, retenez ceci, s'il vous plaît. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, avant que le monde n'ait jamais débuté, et avant que le temps n'ait même jamais commencé. Il nous a choisis pour être là, quand tout serait fini, avec lui dans sa gloire. Et il va donc nous y emmener. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a prédestinés à être adoptés en tant que fils. Telle était son intention. Telle était sa volonté, et c'est tout à la louange de la gloire de sa grâce. Il a déterminé au cours de l'éternité passée qu'il nous amènerait à la gloire. Il l'a prédestiné. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous. Et au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est un héritage ayant été prédestiné selon son but. Il s'agit d'un héritage qui a été prédéterminé avant le début des temps. Notre destin éternel a été enfermé, scellé et livré, pour ainsi dire, avant que le monde ne soit créé. Tout était planifié, verset 11, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous le servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Notez bien. Vous avez été, après, vous avez cru. Quel est le prochain mot? Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, vous pouvez appeler le Saint-Esprit beaucoup de choses. Mais quand vous appelez le Saint-Esprit de la promesse, le Saint-Esprit devient comme un sceau pour garantir quelque chose dans le futur, quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Vous avez été scellé en lui au moment où vous avez cru. Et le Saint-Esprit de la promesse vous a été donné comme gage. C'est le mot grec « arabon »,« akonte », »,« akonte ». C'est aussi un mot qui désigne la bague de fiançailles, de notre héritage. On vous a donné le Saint-Esprit comme sceau au moment où vous avez cru, alors que Dieu voyait l'avenir et la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Et cette phrase, « la louange de sa gloire », est répétée encore et encore. Alors vous comprenez qu'au moment où vous avez cru, vous avez été marqué du sceau et votre héritage est devenu immuable. C'est ainsi que Dieu l'a planifié au cours de l'éternité passée. Et c'est son but, c'est sa volonté. Et c'est exactement ce qu'il fera. À partir du moment où vous avez cru, vous avez été marqué du sceau et l'Esprit vous a été donné comme marque de ce sceau. Regardez au chapitre 4, même livre, Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Vous avez reçu une espérance vivante, bien-aimé. Une espérance vivante, une espérance qui ne peut mourir, un héritage qui ne pourra jamais changer. Et vous avez reçu un acompte, une garantie en la présence du Saint-Esprit de la promesse, qui vous marque du sceau pour ce jour-là. Donc, vous êtes protégé par la puissance de Dieu à travers une espérance vivante. Deuxièmement, nous sommes protégés par le pouvoir de Dieu. Et je veux juste développer ce que j'ai déjà commenté. Nous avons simplement évoqué, la dernière fois, cette phrase du verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés » est destinée à nous rappeler que nous sommes protégés par la plus grande puissance qui soit. Vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu, jusqu'à ce salut qui est maintenant prêt. Le mot signifie « préparer », « apporter de la main », présent, déjà accompli, jusqu'à ce qu'il soit finalement livré dans les derniers temps, lorsque nous verrons le Christ dans sa gloire. C'est comme dans Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le jour de Jésus-Christ est le même jour que le jour de la rédemption, le jour où nous verrons le Christ et entrerons dans la gloire éternelle. C'est le jour que Jean avait en tête dans 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Puis dans 2 Timothée 4, verset 7, « Nous ne pouvons pas manquer celui-ci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes marqués du sceau de l'Esprit, jusqu'à ce que le salut à venir, dans les derniers temps, soit nôtre. Nous sommes tenus vers cela, par le pouvoir divin, par la puissance de Dieu lui-même. » Et cela nous évoque un autre passage très important. Revenons à Romains 8. Et ici, dans ce passage, probablement le plus grand passage sur la persévérance des saints, nous voyons à quel point la puissance de Dieu est grande. Romains 8, versets 38 à 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc aucun pouvoir qui puisse surmonter la puissance de Dieu et son amour pour les siens. Donc reprenons, nous persévérons à travers une espérance vivante et à travers le pouvoir divin. Troisièmement, et c'est très important pour nous sommes protégés par l'espérance. Nous sommes protégés par le pouvoir. Nous sommes protégés par les épreuves. Nous sommes protégés par les épreuves. Cela peut sembler un peu contre-intuitif, à contre-courant de ce qui semble raisonnable au début. Mais je peux vous montrer à quel point c'est important. Si vous ne comprenez rien d'autre que cela, vous aurez le cœur et l'âme de cette merveilleuse vérité. Regardez le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Bien sûr, nous nous réjouissons certainement d'être protégés par le pouvoir de Dieu, protégés par une espérance vivante. Nous nous en réjouissons. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, si Dieu détermine que c'est nécessaire, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Maintenant, arrêtons-nous un instant. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Et les épreuves sont différentes pour tout le monde, parce que les nécessités spirituelles sont différentes pour tout le monde. Nous sommes tous à des points différents le long du chemin du développement spirituel. Et le Seigneur doit faire des choses différentes dans nos vies. Ainsi, nous recevons des épreuves selon ce que Dieu estime nécessaire pour nous. Et nous nous réjouissons de ces épreuves. Au lieu que ces gens regardent la possibilité d'être arrêtés, mis en prison, torturés ou martyrisés, et craignent que leur foi n'échoue, il leur dit « Vous devriez vous réjouir grandement de ces épreuves pénibles, verset 7. En voici la raison, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Maintenant, prenez la première partie de ce verset. C'est la preuve de votre foi. Nous sommes protégés par les épreuves. Dieu soutient notre foi. Voici un moyen de le comprendre. Dieu soutient notre foi, non pas en l'éloignant des épreuves, non pas en s'assurant qu'elle ne soit jamais testée. Dieu ne nous protège pas. Dieu ne nous porte pas. Dieu ne nous garde pas continuellement immuables, nous rendant la vie facile. Il fait le contraire. Dieu soutient notre vraie foi en lui faisant traverser des moments difficiles. Il soutient notre foi au moyen d'épreuves. Vous avez une épreuve et vous traversez cette épreuve en faisant confiance au Seigneur. Et vous dites, cette foi est la vraie foi. La phrase, c'est là ce qui fait votre joie, pourrait vous surprendre. Vous savez, nous le réalisons après coup, bien sûr. Nous ne sommes pas du tout aidés par ces ridicules prédicateurs de la prospérité, donnant partout de faux espoirs aux gens et leur disant des mensonges, prêchant la prospérité au lieu de prêcher la souffrance, les épreuves. Et ainsi la phrase « c'est là ce qui fait votre joie » peut vous surprendre un peu. Mais rappelez-vous, ces gens font face à des persécutions potentiellement mortelles. La peur est une réponse humaine. Et Pierre leur dit « c'est là ce qui fait votre joie, Pourquoi ? Vous vous réjouissez parce que ces épreuves prouvent le caractère de votre foi. Une foi humaine, elle, disparaîtrait. Revenons à la parole du semeur. Une partie des graines, vous vous en souvenez, atterrit sur un sol fait de cailloux, un terrain caillouteux, et elles ont germé pendant un petit moment. Et quand la persécution est arrivée, que s'est-il passé ? Elles ont flétri et sont mortes. C'est toujours une épreuve de la réalité de la vie spirituelle. Toujours une épreuve. Les épreuves renforcent la foi et révèlent la vraie foi. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 2, qui dit essentiellement la même chose. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez, je pense, qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le fait d'atteindre l'âge qui est le mien. Les gens me demandent, « Est-ce que vous vous interrogez sur votre salut ?» Parfois les jeunes me le demandent. Quelqu'un m'a même demandé ce matin, « Je me bats pour savoir si je suis vraiment chrétien ou non. Est-ce que tu te bats avec cette question ?» Et ma réponse, honnêtement, est non. Quand j'étais très jeune, vous savez, le diable me martelait avec des doutes. Mais la vérité est que je ne remets pas en question le vrai caractère de ma foi salvatrice, parce qu'elle a résisté à de nombreuses épreuves. Chaque fois que vous passez par une épreuve, vous vous rendez compte de la nature de votre foi. Les épreuves n'aident pas Dieu à découvrir quel genre de foi vous avez. Il vous l'a donné. Ce n'est pas qu'il a besoin d'informations sur votre foi, mais cela devient une joie pour vous lorsque vous rencontrez diverses épreuves. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et que l'endurance produit un résultat parfait. Je veux dire, quoi de plus merveilleux ? Quel don est plus grand que d'avoir l'assurance du salut ? Qu'y a-t-il de mieux que ça ? Si vous vivez avec des doutes et des craintes et tout ça, c'est merveilleux de savoir que vous avez reçu la vraie foi. C'est merveilleux de voir votre propre capacité à survivre à un désastre. En fait, j'ai trouvé dans ma vie que plus l'épreuve est sévère, plus ma foi est forte, plus ma confiance en Dieu grandit. Ensuite, Timothée écrit un autre texte qui est utile à ce sujet. 2 Timothée 1, verset 8. Paul nous dit, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » Verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il y a cette doctrine de l'élection, de la prédestination, qui est fondamentale pour notre salut. Mais il dit au verset 10, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. En fait, il nous dit, je survis étonnamment bien. En fait, je progresse à chaque occasion. Plus la souffrance est grande, plus le témoignage est rayonnant. Et maintenant, Paul peut dire, à partir de son témoignage personnel, au milieu du verset 12, je sais en qui j'ai cru. Comment le connais-tu ? Parce qu'il s'est manifesté. Il s'est manifesté dans toutes mes souffrances, dans toutes mes épreuves, et je sais en qui j'ai cru. Je sais que j'ai cru, et je suis convaincu qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Quel est ce jour ? Le jour de la rédemption, le jour du Christ, le jour où vous le verrez face à face. Je sais en qui j'ai cru, je sais que j'ai cru, je sais qu'il est capable, dunatos en grec. Il est puissant pour garder ce que je lui ai confié. En passant, le terme grec est paratheke, qui veut dire dépôt. Ce que j'ai déposé chez lui, ma vie, mon âme, mon éternité. Je sais qu'il est capable de les garder. Je sais qu'il peut le garder grâce à ma foi. Car peu importe l'épreuve, ma foi ne faillit pas. Il m'a donné une foi qui survit à tout cela. La vraie foi émerge d'épreuve plus forte que jamais. Alors, revenons encore une fois dans Romains 8. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce chapitre quand on parle de ce sujet. Mais dans Romains 8, Paul dit au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Y a-t-il quelque chose qui puisse amener le Christ à cesser de nous aimer ? Ou le contraire ? À la façon des Grecs, y a-t-il quelque chose qui pourrait nous amener à cesser d'aimer le Christ ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée ? Vous pensez qu'il a juste sorti ces mots de nulle part ? Non, c'est autobiographique. Il a vécu tout ça. Les tribulations, les attaques quotidiennes contre ma vie. La détresse, c'est être sans nourriture, sans vêtements, avoir froid, être à la mer, subir de constantes persécutions, être souvent affamé, avoir le dénuement d'un prisonnier, être roué de coups, de fouets ou de bâtons, être à la merci des voleurs, à la merci de mes propres compatriotes et à la merci des païens. Il donne toute une liste dans 2 Corinthiens 11. Je vous assure qu'il était là, que je l'ai vu me faire un signe, et je vous dis tout cela, bien qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que quoi? Vainqueurs. C'est de là que vient le mot Nike. Nike, le victorieux. Vous voyez, ce genre de foi que Dieu nous donne se révèle dans l'épreuve. Elle se révèle. Je n'ai jamais été personnellement confronté à la persécution. J'ai fait face à des environnements plutôt hostiles, où vous devez mettre votre foi en jeu dans certains environnements. Je trouve un certain degré d'énergie, un niveau d'engagement, un niveau de conviction et un niveau d'audace dans ces environnements, peut-être même plus grand qu'ailleurs. Et il y a l'œuvre du Saint-Esprit, afin que cette épreuve devienne, pour moi, l'affirmation que la foi, pas la mienne, mais celle qu'il m'a donnée, est la vraie foi. Les épreuves, retour à notre texte, produisent de la détresse pendant un petit moment. Elles viennent comme le feu pour brûler les scories. Et c'est tout l'enjeu. Non seulement elles révèlent votre foi, mais elles la purifient. Et ce qui émerge, dans 1 Pierre 1, est une foi qui est plus précieuse que l'or, qui, lui, est périssable, et ce même si elle est testée par le feu. Quand vous faites tester votre foi, elle en sort plus pure, plus précieuse. Et je vais vous dire avec cela l'esprit, vous, au lieu de demander à Dieu de vous protéger contre les épreuves, vous devriez lui demander de s'assurer qu'il vous mène à travers toutes les épreuves nécessaires pour vous donner l'assurance que votre foi est véritable. J'aime ce qu'il dit dans Actes 5 au verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Vous vous rappelez, le Sanhédrin, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. C'est ce que le Sanhédrin a fait. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Vous savez quelle a été leur réaction. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et vous savez pourquoi ils sont sortis de là si heureux, bien que saignants, meurtris, battus, embarrassés et humiliés, mais emplis de joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils possédaient une foi véritable. Ils savaient qu'ils avaient la vraie foi. Et tout cela n'a fait que les rendre plus audacieux. Verset 42. J'aime celui-là. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien sûr, le pire qu'ils pouvaient faire, c'était de les arrêter de nouveau et de tout recommencer, ce qui renforcerait leur foi encore plus. Jésus-Christ lui-même a été renforcé par la souffrance. Il dit dans 1 Pierre qu'il n'a pas répondu quand il a été injurié. Il ne proférait aucune menace, mais qu'il se confiait à celui qui juge justement. Et l'auteur d'Hébreux dit qu'il a été rendu parfait par la souffrance. Nous sommes donc protégés. Nous sommes protégés parce que Dieu nous a donné une espérance vivante, c'est-à-dire un espoir bâti sur notre foi immuable. Dieu nous a donné une foi qui est insufflée par le pouvoir divin, qui ne peut pas être vaincue. Aucune force n'est à son égal. Et Dieu nous protège aussi au travers d'une foi testée et éprouvée. Quatrièmement, il y a quelque chose d'autre ici que je dois vous mentionner dans 1 Pierre. C'est que nous sommes protégés par le dessein éternel. Nous avons tous entendu cela, donc je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Mais nous sommes protégés par le dessein éternel, par une espérance vivante, une puissance divine, des épreuves et un dessein éternel. Regardez le verset 7. Nous tenons quelque chose dont la fin du verset 7 nous parle, qui se trouve dans la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, notre foi est conçue pour survivre jusqu'à la fin. C'est une promesse incroyable. Nous avons une foi qui espère, une foi qui est inattaquable, protégée par le pouvoir divin, une foi forte qui se fortifie davantage par l'épreuve. Nous avons une foi éprouvée et testée, qui trouve son accomplissement dans le but et le plan de Dieu, à savoir une union avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. À ce moment-là, nous recevrons la gloire, la louange et l'honneur de la part de Dieu. Cela nous amène à la raison pour laquelle nous avons été sauvés au départ. Nous avons été choisis pour que nous soyons amenés à la gloire éternelle. Vous savez ce que la Bible enseigne à ce sujet. Nous serons comme lui. Nous aurons un corps semblable à son corps. Nous aurons une maison céleste. Il prépare une place pour nous. Nous ne faisons que traverser ce monde. Nous ne sommes pas des citoyens d'ici-bas. Cette légère affliction momentanée que nous subissons ne doit pas être comparée à cette merveilleuse gloire de poids qui nous attend en sa présence. Nous réclamons la rédemption de notre corps, parce que nous savons ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous connaissez tous ces versets. Nous sommes déjà, pour ainsi dire, des citoyens célestes. Notre Père est là-bas. Notre maison est là-bas. Notre vie est là-bas. La promesse de Dieu est de nous amener à la gloire éternelle. Et en passant, c'était son engagement, non pas au moment où nous avons entendu l'Évangile, non pas au moment où nous avons cru. C'était son engagement envers nous depuis l'éternité des temps, bien avant que nous n'ayons jamais été créés. Dieu a alors prédéterminé que nous serions amenés à la gloire éternelle. C'est dire que vous ne pouvez comprendre le salut si vous ne comprenez pas ces trois dimensions. Il y a le moment précis où vous vous mettez à croire. Il y a le processus par lequel vous êtes gardé. Et il y a le salut final dans lequel vous êtes glorifié. Et lorsque Dieu a prédéterminé de vous sauver, il a prédéterminé que tous les trois auraient lieu, pas seulement l'un ou l'autre. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 18, où Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quoi que nous puissions souffrir ici, nous nous réjouissons, parce que cela nous montre que notre foi est véritable, que cela renforce cette foi, et qu'aucune de ces souffrances ne doit être comparée à la gloire que Dieu a prédéterminée pour nous. Nous sommes donc protégés par une espérance vivante, un pouvoir divin, des épreuves et la promesse de la gloire éternelle. Puis-je vous en donner un de plus ? Le numéro 5. Nous sommes protégés par l'amour éternel. Nous sommes protégés par l'amour éternel. 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez. C'est là l'essentiel. Nous aimons Jésus-Christ. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, 1 Corinthiens 16, verset 22, qu'il soit anathème. Ceci est une déclaration profonde sur la nature du véritable salut. Il est caractérisé non seulement par la foi en Christ, par le fait de croire en lui, mais aussi par le fait de l'aimer. Vous avez déjà entendu quelqu'un lors de son baptême dire « Juste parce que je croyais les faits, j'ai supposé que j'étais un chrétien. Vous pouvez croire les faits et ne pas être sauvé. Le diable croit les faits. Les démons croient les faits. Ils savent qu'ils sont vrais. Le problème ici est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et tu m'aimes si tu gardes quoi ? Mes commandements. Tu m'aimes si tu souhaites ma gloire et mon honneur. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez. Si vous deviez définir le christianisme dans son sens le plus pur, vous devriez utiliser ce mot « amour ». Vous pourriez parler de croire en Christ, mais vous n'y arriverez pas vraiment. Parce que beaucoup de gens disent croire en Jésus-Christ. En fait, j'ai lu aujourd'hui un article stupide dans lequel un homme disait qu'il y a 3 milliards de chrétiens dans le monde. Eh bien, il y a probablement 3 milliards de personnes qui croient en Jésus. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, qui l'aiment de manière sacrificielle, qui l'aiment totalement, qui l'aiment docilement, qui l'aiment avec adoration, qui l'aiment vertueusement. Et bien que vous l'aimez sans l'avoir vu, le verset 8 dit « En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, vous pouvez reconnaître un chrétien, parce qu'il aime tellement le Christ qu'il transpire la joie. Il transpire dans la joie. » Savez-vous que la seule religion au monde qui chante est le christianisme ? Le saviez-vous ? Quelques autres religions chantent de façon mineure, une sorte de rap non biblique. Et vous savez quoi ? Le véritable christianisme chante majoritairement. Nous chantons. Pourquoi chantons-nous ? Nous chantons parce que nous sommes remplis de joie. À propos de qui chantons-nous ? Nous chantons à propos de Christ. J'aime les refrains de louanges, vous savez. Mais je suppose que 90% des chœurs de louanges sont plus ou moins tirés de l'Ancien Testament. J'aime chanter à propos de Jésus-Christ. Cela ne me dérange pas de chanter à propos de l'Ancien Testament, mais j'aime me tourner vers la meilleure partie, et c'est le Christ. Nous l'aimons. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre, dans Jean 21, quand il voulait le rétablir ? Au bord de la mer de Galilée, il a dit « Pierre, quoi ? M'aimes-tu ? » C'est ainsi qu'il a défini leur relation. « M'aimes-tu ? » Et Pierre répond « Je t'aime. » Jésus continue en disant « Alors, fais ce que je te dis. Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois « M'aimes-tu ? » Pierre dit « Oui, je t'aime. » paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » La raison pour laquelle il lui a demandé trois fois, bien sûr, était qu'il faisait un parallèle avec les trois dénégations de Pierre. Le Seigneur savait que Pierre reconnaissait que l'amour était démontré dans l'obéissance, et il a demandé une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre savait qu'il ne pouvait pas invoquer son obéissance, parce qu'il n'en avait pas eu. Donc, ce qu'il a dit, c'est « Je t'aime ». Il a dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu connais mon amour pour toi. Messieurs, dames, ça me plaît vraiment. » Il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Et il sait si nous l'aimons. 1 Jean 4, verset 19 dit, « Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Vous savez qu'une vraie relation humaine exige de l'amour et de la confiance. Amour et confiance. Ainsi est faite notre relation avec Christ. Voilà la façon dont c'est réellement défini. Et il n'y a pas de chrétien qui n'aime pas le Christ. Tout au long de votre vie, en tant que croyant, vous grandissez grâce à votre amour pour le Christ. Vous grandissez grâce à votre affection pour lui. C'est pourquoi Paul dit « Que je puisse le connaître, car plus vous aimez quelqu'un, plus vous voulez le connaître. » Paul savait qu'il était aimé, et de retour dans Romains 8, il savait que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Christ pour lui. Mais il savait aussi que rien ne pouvait le séparer de son amour pour Christ. En fait, n'est-ce pas cela l'idée? Vous pouvez me frapper avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez me frapper de tribulation, de détresse, de persécution, de dénuement, de famine, de l'épée, et rien ne changera mon amour pour le Christ, rien. Je l'aime d'un amour qu'il m'a donné. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est un don de Dieu, tout comme la foi. Vous avez reçu une foi surnaturelle. Vous avez reçu un amour surnaturel qui ne s'altérera jamais. Ainsi, c'est cet amour éternel qui nous porte. C'est une composante de notre foi. Nous sommes donc gardés par la foi, au verset 5. Et le verset 9 nous dit enfin, quelle est la finalité ? Obtenir. Écoutez ceci, comme le résultat de votre quoi, de votre foi, le salut de votre âme. C'est pourquoi nous pouvons affirmer, frères et sœurs, que cette doctrine devrait être appelée la persévérance des saints, ou mieux encore, la persévérance de la foi. Vous avez reçu une foi qui ne périt jamais. Vous avez reçu une foi qui est protégée par le pouvoir de Dieu. Une foi qui a une espérance, qui ne meurt jamais. Une foi soutenue par un pouvoir divin, qui ne peut pas être renversé, une foi qui est éprouvée, testée, renforcée par les épreuves, une foi conçue pour l'accomplissement de la gloire éternelle, promise avant le commencement du monde, une foi qui contient en elle un amour éternel pour le Christ. Et le résultat de cette foi sera l'obtention du salut final de vos âmes. Franchement, les amis, il n'y a pas d'échappatoire à cette réalité, pas de fuite. Le résultat de cette foi salvatrice est votre salut final. Le salut que vous ressentez à l'heure même où je vous parle est le résultat de cette foi. Le salut originel était le résultat de cette foi. Et le salut final sera vôtre, car cette foi persévère et durera jusqu'à la fin. C'est la nature de cette foi. Ce n'est rien de moins qu'un don permanent de Dieu. Ne serait-ce que considérer la possibilité que vous pourriez perdre votre salut est une fausse représentation de la grâce de Dieu. C'est une fausse représentation de la nature de la foi, du don de son amour, du travail de son esprit. C'est une fausse représentation de sa puissance et de son but. C'est une fausse représentation de son plan d'éternité dans la vie de ses élus. Je vous l'assure, et c'est probablement le bon mot pour finir, si tant est qu'il n'y ait jamais eu une fin. Philippiens 1, verset 6, comme évoqué plus tôt, nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce que cela ne met pas fin à l'argument? S'il a commencé, que fera-t-il? Vous avez deviné. Seigneur, merci pour ces temps merveilleux, si enrichissants pour nous. Merci pour ce cadeau, si immérité. Merci pour la joie qui vient, parce que nous savons qu'elle est éternelle. Remplis nos cœurs de joie, indescriptible et pleine de gloire. Aide-nous à nous réjouir intensément de la permanence de ce don de la grâce. Merci pour cette foi durable, cet amour durable et cette espérance durable. Merci que tout cela ait commencé bien avant l'aube des temps, se poursuivra dans l'éternité à venir, et que tout cela puisse se refléter dans ta gloire et dans ta louange, qui est notre plus grande joie. Nous te remercions pour les témoignages que nous avons reçus ce soir de ceux que tu as choisis, qui sont maintenant venus à la foi et qui sont sur le chemin du salut final. Enfin, Seigneur, nous savons, comme Paul l'a dit, que notre salut à présent, notre salut final, est plus proche que lorsque nous avons cru. Et bientôt nous savons que Jésus-Christ divisera les cieux et nous rassemblera auprès de lui. Et ce jour-là, ce jour de la rédemption, ce jour du Christ sera la réalité et cette éternité glorieuse à laquelle notre foi persévérante nous mènera sera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Merci pour cette grâce et ce salut. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.